y a des noms, il y a des lieux plus difficiles à prononcer que d'autres. Les Huichols, ce sont des Indiens qui vivent dans la Sierra Madre et qui en fait sont originaires d'une région qui est pourtant éloignée d'à peu près 800 ou 900 kilomètres. On pense qu'un jour, ils sont partis de San Luis Potosi, ou en tout cas de ces terres désertiques, et qu'ils sont descendus petit à petit, comme le font tous les nomades, tous les Indiens nomades que l'on trouve plus haut jusqu'aux États-Unis sur cette frontière du Rio Grande. Et aux alentours des années 1200, peut-être 1250, 1300 ou plus tard, ils sont arrivés sur des hauts plateaux dans une sierra qu'on appelle la Sierra del Nayar. Or, elle est effectivement en pleine Sierra Madre. Et voyez-vous, si vous partez de la base Californie et que vous imaginez cette sorte d'échine étrange du Mexique, la Sierra Madre traverse tout le pays, glisse jusqu'au moment de l'isthme du côté de Tehuantepec et continue bien sûr sur le Guatemala. Mais là, c'est déjà une histoire de volcan. Or, quand on est situé en dessus de Guadalajara, quand on est situé sur la droite de cette énorme côte pacifique, très vite on monte jusqu'à 1500 puis 2000 mètres. Or, le climat est un peu différent d'ailleurs. Je veux dire par là qu'il y a de la roche, mais il y a aussi des zones très tropicales, il y a des canyons, des rivières qui creusent cette sierra, il y en a l'impression qu'on peut tout cultiver et tout trouver. Aujourd'hui, nous allons parcourir ces sierras des Indiens Huichol en compagnie de Mathieu Tourner et nous allons surtout essayer de reconnaître non seulement la tradition de ces Indiens Huichol, mais faire une sorte de parcours, un parcours d'années, un parcours de vie, voir que chaque fois qu'on a l'occasion, on ponctue son existence d'une fête, d'une initiation ou éventuellement d'un passage, un peu comme le passage des portes qu'ils vont suivre lorsqu'ils iront faire le grand pèlerinage pour retourner à leur lieu d'origine, c'est-à-dire là-bas où pousse la plante sacrée, le peyote, le cactus hallucinogène. Mathieu Tourner, si vous étiez vous-même un maracamé, si vous étiez chanteur, si vous étiez guérisseur, si vous étiez chaman, si vous étiez Huichol, comment est-ce que vous organiseriez une fête que vous nous avez déjà évoquée sur cette antenne, à ce micro, cette fête du maïs, cette fête de l'initiation, ce début de quelque chose pour des enfants qui n'ont pas encore 5 ans? Comment est-ce qu'un sorcier, comment est-ce qu'un guérisseur va concevoir la vie communautaire et ce calendrier que j'évoquais tout à l'heure?
Oui, d'une part, je ne suis pas un guérisseur, je ne suis pas un chaman, je ne suis même pas Huichol, et j'ai des ancêtres qui sont plutôt de l'hexagone français et non du Mexique.
J'avais mis un « si » devant simplement parce que quand on a vécu comme vous 6 mois chez les Huichol, on peut tout à coup se mettre dans la peau d'un Huichol comme ils savent si bien le faire, dans la peau d'un arbre, dans la peau d'une plante, dans la peau d'une pierre.
Oui, donc je resterai observateur vis-à-vis de ça plutôt. Et je pense que justement la grande technique de l'éducation chamanique pour les enfants Huichol, c'est dans la parole, dans la parole, mais la parole libre. C'est-à-dire que le chanteur va initier les enfants en amenant des images à travers ses chants, à travers ses paroles, et des images qui sont absolument libres et l'enfant va pouvoir moduler ces images et pouvoir en faire sa propre idée. Ce n'est pas comme d'autres religions ou d'autres traditions qui sont comme nous en Occident, où l'on a un texte auquel on s'attache. Là, ce sont des images que chacun voit de la manière dont il veut. Et c'est là où est la grande liberté dans la tradition Huichol.
De pouvoir interpréter, de pouvoir changer. Mais c'est une tradition, il faut le dire, une tradition au départ orale. Or, bien sûr, tout ce qui est oral est encore du monde précédent, la religion et les dogmes. Un dogme est obligatoirement quelque chose d'écrit, il y a déjà des lois, il y a déjà des formulations. Le Huichol vit avec ses propres lois, c'est vrai, mais elles sont orales, donc elles se transmettent de manière orale, donc elles sont évolutives, elles vont être aussi changeantes que l'habitat du nomade. Et en définitive, un Huichol, lorsqu'il enseigne cela à un enfant, obligatoirement, l'enfant pourra lui-même l'interpréter, et plus tard, s'il devient en même temps un maracamé, il va le chanter de façon différente que son ancêtre.
Tout à fait, il va le percevoir de sa manière, et en plus il va y ajouter quelque chose. À chaque fois, la tradition n'est pas un texte fermé où il y a une fin, où il y a un point final. Elle reste ouverte, et chaque phénomène, même les phénomènes les plus modernes qui se passent dans la Sierra Huichol, dont sont sujets les Indiens Huichol, chacun de ces phénomènes est interprété par les Huichol et donc rentre pour la génération suivante et donc est offert sous forme d'image, comme nous disions.
C'est assez normal que cela puisse être ingurgité par leur système, et c'est peut-être d'ailleurs là où réside la clé de la qualité des traditions Huichol. À l'instant où l'on fige, à l'instant où l'on met en image, et nous n'avons pas dit qui vous étiez, parce que certains ne vous connaissent pas, c'est vrai qu'étant cinéaste, on a envie d'arrêter l'image et l'action. Or, ce qu'on remarque quand on retourne régulièrement chez les Huichol, c'est qu'il faudrait y aller chaque fois pour refaire complètement le film ou ce que vous êtes en train de faire, puisqu'on continue toujours à rajouter des morceaux. On se dit, tiens, ça, je ne l'avais pas, cette tradition-là, je ne la connaissais pas. Ce fait nouveau change effectivement l'image que j'ai d'une communauté comme celle-là. Parce qu'il faut le dire aussi pour ceux qui nous écoutent, que nous sommes en pleine Sierra, mais le modernisme est arrivé, ces gens-là sont sortis. Nous l'évoquions lors d'un dernier entretien, mais en même temps, Il y a quelque chose de fantastique chez eux, c'est cette faculté de remettre à l'heure de manière traditionnelle des choses qui nous paraissent modernes, c'est-à-dire de remettre à leur image, selon leur couleur, et je dirais même selon leur vision, parce qu'on a bien l'impression que c'est en même temps cette façon de triturer le tout avec un côté halluciné. Mais quand je dis halluciné, c'est une méthode pour mettre en image, justement. Ce qui est fabuleux, c'est qu'à travers le peyote ou les différents moyens, et les différentes techniques qu'ils utilisent, y compris le chant, ils arrivent à créer un climat et une formulation qui est complètement différente de celle qu'aurait un Mexicain moyen.
Oui, c'est cela. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être vous raconter une anecdote à ce niveau-là. Les Indiens Huichol pensent qu'un grand aigle est arrivé de l'Occident, donc de l'Atlantique. Et ce grand aigle est passé sur le Mexique. Et là, les Indiens l'ont aperçu. Et lui ont décoché une flèche pour le tuer, mais l'ont à peine touché. Et donc quelques plumes sont tombées au sol. Et puis ce grand aigle a poursuivi son vol vers le nord, vers les États-Unis. Et là, aux États-Unis, d'autres Indiens ont tiré des flèches et ont tué l'aigle qui s'est abattu au sol. Et ces plumes symbolisent pour les Indiens, ces plumes symbolisent l'argent, la valeur de l'argent. Et c'est pour ça que le peso est si bas et le dollar est si haut.
On est en train de rattraper de temps en temps à coup de zéro selon le moment de l'histoire, mais la façon de se considérer comme riche ou comme pauvre prouve qu'ils ont su s'adapter aussi à ce monde monétaire qui n'était pas leur et qui correspondait uniquement à du troc, même si on a gardé l'image d'une plume et non pas l'image d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque. En évoquant tout à l'heure la fête d'initiation des enfants, j'avais envie de vous ramener à cette idée du calendrier, et puis qu'on revive peut-être une année Huichol. Comment est-ce qu'elle débute par rapport à ces scènes d'initiation, à cette fête du maïs, par exemple?
Ben, l'année Huichol, oui, débute certainement au moment de des premiers épis de maïs, les premiers épis de maïs germant s'offrant Huichol vers le mois de septembre, et le mois de septembre étant également le début de la saison sèche, là où le temps est clair et beau, et où les pluies s'arrêtent. Donc là commence l'année Huichol, et en même temps, c'est cette fête des premiers maïs, c'est également la fête des enfants de l'initiation chamanique, donc le début, le départ. Puis ensuite vient le fameux pèlerinage à Viracocha, vers la terre de leurs ancêtres, où ils retrouvent donc, ils incarnent leurs ancêtres eux-mêmes.
C'est-à-dire qu'en fait, en se peignant, ils essayent eux-mêmes de prendre l'image soit de l'ancêtre, soit d'un dieu, si ma mémoire est bonne. Parce que c'est vrai, quand on les voit, il faut décrire un Huichol, c'est difficile de faire des images comme cela, mais quand on part en pèlerinage, on est harnaché de façon superbe. Parce que quand on dit pèlerinage, on se dit, tiens, on va faire une course de montagne de 400 ou de 500 kilomètres. On n'imagine pas qu'on parte avec un costume blanc lumineux, avec des broderies incroyables, avec un chapeau fantastique avec des plumes dessus et quelques perles qui en décorent le bord. Et puis alors, il y a toujours cette pierre que l'on prend, cette racine que l'on broie, que l'on frotte avec un peu d'eau. Et tout tout à coup, vous avez cette image merveilleuse du Huichol qui prend la joue de son voisin, comme ça, qui dessine avec ce bâton, avec un tout petit morceau de bois, avec une sorte de cure-dent, qui commence à dessiner une étoile, une fleur, une forme symbolique, et sur le front aussi, sur le nez. Chacun se décore, ou on se décore soi-même, souvent aussi avec un petit bout de miroir. Et ça, j'avoue que quand les gens sont décorés comme cela et qu'on les voit partir faire le pèlerinage, il y a des groupes plus ou moins importants, ils peuvent même être en bus ou prendre les moyens modernes. Mais qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette image ou cette façon de se marquer d'un sceau, de se tatouer ou en tout cas de se peindre pour être identifié à quelque chose ?
Eh bien, je pense que justement, cette marque, c'est pour justement signifier aux autres hommes que maintenant, ils ne sont plus des humains, mais ils sont des dieux, ils sont devenus des ancêtres, des dieux. Et cette manière de se maquiller est donc une manière de montrer qu'ils ne sont plus des hommes.
Et lorsqu'ils partent sur ce chemin du pèlerinage, essayons de les accompagner, essayons de les imaginer comme ils le faisaient il y a encore 20 ou 30 ans, c'est-à-dire au moment où ils avaient la possibilité de suivre toutes ces sentes sur des centaines de kilomètres, sans être gênés par les fils de fer barbelés ou tout ce que les Mexicains et les paysans locaux ont placé maintenant. Comment est-ce qu'on crée un groupe ? Comment est-ce qu'on décide de faire le pèlerinage ?
Eh bien, contrairement à un pèlerinage comme nous pouvons l'imaginer, ce n'est pas le Huichol qui va décider de faire le pèlerinage. C'est à travers l'interprétation de ses rêves par le chaman que le Huichol sera choisi pour faire le pèlerinage. Donc ce n'est pas lui qui choisit de faire le pèlerinage, mais ce sont les dieux qui l'ont choisi pour faire le pèlerinage. Et donc voilà comment se constitue le groupe. Et ensuite, il y a plusieurs rôles. Donc il y a les rôles principaux, bien sûr, et petit à petit, en descendant vers le plus humble des dieux, dirons-nous.
Il y a une hiérarchie, on les voit partir, le premier devant, le petit dernier à l'arrière. Et quels sont
en
les...
file indienne.
Oui, par logique. Quelle est l'importance d'un groupe au départ d'un pèlerinage pour une communauté comme celle de San Andrés ou pour une des cinq grandes communautés? À combien est-ce qu'on part aujourd'hui?
Aujourd'hui, moi je suis parti avec eux dans un groupe de 50. Mais l'on peut partir dans un groupe beaucoup plus réduit, tout dépend de l'importance. Et cette démarche nécessite... Pour les Huichol, lorsqu'ils partent là-bas, ils partent rechercher une énergie de vie. Et c'est en allant vers la terre des ancêtres pour se ressourcer qu'ils vont chercher cette vie et la ramènent à leur peuple.
Se retrouver chez les Huichol, se retrouver chez ces Indiens, un peu étrange quand on les aborde pour la première fois, quand on les voit pour la première fois, deviner leur dieu comme le grand-père le feu, Tatevari, ou éventuellement... C'est vrai que quand on évoque Tao, par exemple, Tao, immédiatement, on pense à Tonantiu, le grand dieu des Aztèques, ce dieu solaire, cette énergie extraordinaire. Et puis, il y a la déesse de la Terre, en fait, cette déesse mère aussi, qui est Nakawe. Et on imagine très bien Coatlicue. Il n'y a qu'à changer de terme et on se retrouve à la fois dans le passé absolu, c'est-à-dire avant l'arrivée des Espagnols. Et tout à coup, quand on voit un pèlerinage, quand on voit une action de pèlerinage comme vous l'avez vécu, Mathieu Tournaire, on a l'impression qu'en même temps, on a encore un passé devant soi. C'est-à-dire que le Huichol n'est pas bloqué dans le temps, pas du tout, mais il vit selon son envie et selon ses racines traditionnelles. Donc il est capable d'annihiler 500 ans de conquête et d'histoire du Mexique. Quand on est français comme vous, quand on aime le cinéma, qu'on est soit niçois, soit parisien, c'est égal, mais qu'on se découvre une vocation, en tout cas une passion pour le Mexique et en particulier les Huichol, comment est-ce qu'on participe à un pèlerinage avec ces 50 Huichol qui sont habillés, qui sont maquillés?
Eh bien, c'est très dur, c'est très long et c'est très dur, car il faut d'abord pouvoir enlever son enveloppe d'éducation, de culture européenne pour se présenter le plus nu possible devant ces Indiens et petit à petit pouvoir prendre quelques petites pièces de leur culture. Ce pèlerinage, il est possible après un long temps donc d'adaptation qui a duré notamment plusieurs mois. Et j'étais parti dans l'optique de faire un film sur les Indiens Huichol. Et au bout de 5 mois, donc au bout du moment d'acceptation pour partir pour le pèlerinage, au bout de ces 5 mois, je n'étais plus parti pour faire un pèlerinage sur les Indiens Huichol, mais j'étais parti pour faire un pèlerinage avec les Indiens Huichol. Ce qui changeait complètement la démarche, et c'est comme ça que le film a pu se réaliser.
Vous êtes maintenant auprès d'une des saintes portes de ce voyage, de ces saints moments importants. Vous arrivez dans cette terre promise, dans cette terre des ancêtres, Et on va apercevoir le premier cactus, parce qu'il faut expliquer ce qu'est le peyote. Beaucoup de gens ne savent pas que cette plante sacrée pour les Huichol, c'est une petite chose qui fait à peine 7 à 8 cm de hauteur, qui peut d'ailleurs vivre en mini-groupe comme ça. C'est un cactus sans épines. On a l'impression plutôt qu'il est poilu, il a une forme étoilée en surface, et il tient dans le creux de la main, grosso modo. Quand on en voit pour la première fois sur ces terres désertiques, on se demande même comment on l'a aperçu. D'ailleurs, l'Indien avait l'impression qu'il le découvrait par magie plus que par ses yeux.
C'est ça, quand on arrive petit à petit, on arrive donc vers des zones désertiques, de plus en plus désertiques, un sol aride fait de terre et de cailloux, d'arbustes épineux, et les cactus commencent à apparaître. Et là, nous rentrons dans le domaine primaire, dans le premier pays de ces Indiens, de leurs ancêtres, donc, puisque dans le désert de San Luis Potosi. Et à travers les cactus, tout d'un coup, les
là, vous parlez de cactus normaux.
De cactus normaux, tout à fait, de grands cactus.
Les grands cactus cierges, les cactus...
Les Indiens, petit à petit, se taisent. On a passé les 5 portes, on a passé la 5e porte, qui est la porte du soleil.
Comment se situe une porte dans la nature?
La porte est représentée souvent par une lagune, un petit lac, un point d'eau. Ce sont les derniers points d'eau. Ce sont certainement d'ailleurs les campements c'est certainement là où ils ont établi les campements lors de leur migration.
Voilà. Ce sont en fait les arrêts de vie.
Exactement, exactement. Et la dernière porte, donc cette fameuse porte du soleil, elle est une colline d'où naquit le soleil, une colline qu'on appelle le Cerro Quemado. Et donc on arrive dans cette étendue désertique, et les Indiens tout d'un coup marchent doucement, très doucement, à pas feutrés, et ils ont une arme à la main. Alors soit ce sont des flèches, soit c'est un lance-pierre, soit c'est un fusil. Et petit à petit, ils marchent comme ça, ils se dispersent sur cette étendue.
Comme s'ils chassaient.
Comme si jamais ils chassaient, comme si jamais ils cherchaient quelque chose. Ils regardent au sol, et puis de temps en temps, ils parlent, ils chantent. Ils chantent parce qu'ils appellent. Ils appellent le dieu de la plante, le dieu. Ils appellent leur ancêtre, le grand cerf bleu également. Ils appellent le maïs, ils appellent le peyote, ils appellent Ikuri, la trilogie. Et tout à coup, ils voient devant eux un grand cerf bleu qui détale. Et dans les empreintes de ce cerf, ils découvrent comme une forme d'empreinte. Cette empreinte, en fait, dans cette empreinte est né le peyote. Et le peyote est un cactus nain, très petit, à peine visible, couleur de la terre d'ailleurs, parfois un petit peu enseveli sous la poussière. Et là, il plante des flèches, il tue le peyote. Il tue le peyote comme si jamais il tuait un cerf. Et parce que la communion des trois éléments, cerf, maïs, peyote, est totale à ce moment-là. Et ils ont découvert le peyote, mais ils ont découvert le cerf également. Et ils ont souvent du maïs dans la main pour s'aider d'ailleurs à trouver ce peyote.
Donc il y a tout un acte magique, enfin toute une cérémonie en fin de compte, autour de la rencontre avec cet élément lui-même sacré et très fort. Et on sent que là tous les éléments viennent de se recoller d'un coup avec un simple fléchage. En fait, on a dirigé l'énergie d'où elle vient.
Exactement. Et on la recueille pour soi après. Et on la distribue au peuple. Cette même énergie est redistribuée après pour le peuple. Et d'ailleurs, le peyote après est ramené au village et sera distribué à toute la population, car il est symbole de vie, il est symbole de persistance.
Si vous aviez fait le voyage de façon tout à fait classique, sur des pistes encore vierges, il vous aurait fallu une bonne quarantaine de jours, octobre, novembre, serait déjà entamé. Et vous vous seriez arrêté tous les soirs devant un feu. Un feu qui est à la fois protecteur, mais qui en même temps va éloigner. Vous avez senti qu'on était très, très entouré là tout à l'heure. Il y avait ce monde étrange qui flottait autour de nous. Il peut y avoir un côté maléfique. Vous avez fait un effort énorme. Il y a eu de grosses privations. Vous avez emporté votre hôte avec un peu de nourriture, ces objets rituels qu'on va laisser aux endroits des portes et qu'on va laisser encore au retour lorsque ces hôtes seront pleines de ce petit cactus qu'on aura maintenant véritablement cueilli au sens nomade du terme, comme on fait la cueillette, comme on fait la pêche, comme on fait la chasse, comme on a su un jour faire un peu d'agriculture avec le maïs. Et avant de s'endormir, après avoir mangé, on donnera encore quelques boulettes de ce maïs au feu afin qu'il se contente de ses offrandes. Donc on voit qu'il y a des communications avec tout ce qui nous entoure. Et puis le matin, c'est le soleil qui prendra la route devant vous et vous le suivrez en fait mentalement. C'est toujours le chef qui sera le plus fort et le soleil a toujours été le plus fort. On s'est retrouvé dans cette terre sacrée. On a gravi tout à l'heure cette montagne solaire aussi. Leonard, ou comme vous l'avez appelé, le Cerro Quemado. Et on a déposé une dernière offrande dans ce petit cratère où est né l'enfant soleil que j'évoquais tout à l'heure, cet enfant qui se sacrifie dans le bûcher purificatoire, comme exactement le premier soleil ou le dernier soleil aztèque est né. Et c'est bien sûr par ce sacrifice du petit dernier, du petit nomade, que tout à coup cette boule extraordinaire et cette énergie va illuminer le monde. Et le Huichol est descendu dans ces montagnes désolées, toujours en file indienne. Il a récolté, après l'avoir chassé, son peyote. C'est un résumé, mais c'est en même temps un immense geste de vie. Ce que j'appelle en espagnol la peregrinación, c'est plus que l'idée pèlerine. C'est vraiment cette fonction qui fait que, comme la qui vivait en plein Mexico, Tenochtitlan, dans son lac, sur sa lagune, a envie, après la mort, de retourner à Aztlan, son lieu d'origine qui est tout au nord. On a la même impression pour les Huichol, tout comme si vous avez été marqué du sceau de Dieu, vous l'avez marqué sur votre joue, sur votre front, avec cette racine et cette couleur jaune. Eh bien, vous vous êtes dit, j'ai le droit de refaire le parcours que mes ancêtres ont fait. Je retrouverai le même feu de camp, le même lieu, je vais retrouver ce lieu d'origine, et on va me redonner, vous l'avez dit vous-même, Mathieu Tournaire, cette énergie vitale qui est à l'origine des choses. Donc on a l'impression d'un immense cercle qui se referme une fois de plus. On termine le pèlerinage en rentrant et on redonne cette énergie en faisant une fête extraordinaire. La fête du Ricuri, ce sera effectivement une fête de distribution, une sorte d'incroyable communion où là on voit ces gens défiler et trier et manger et remanger de ce cactus hallucinogène. Alors pour nous de l'extérieur, ça paraît étrange comme rituel. Mais comment est-ce que vous l'avez ressenti après avoir fait le pèlerinage? Comment est-ce que vous l'avez senti au point de vue social quand on arrive à réanimer cet univers et à reconstruire complètement le monde comme ils le font grâce à cette allée et ce retour? Vous avez peut-être encore envie de parler du retour?
Ben, une fois qu'on a fait le pèlerinage, on a plus aucune notion du temps. Le temps n'existe plus, l'époque n'existe plus, on est en dehors de tout ça. On est des hommes, on est sur une terre, mais on a tout à construire, on a tout à réaliser, et l'on revient petit à petit sur le village, sur les montagnes, et avant d'arriver d'ailleurs en montagne, là l'on va chasser le cerf, parce qu'il faut encore chasser le cerf.
Le vrai cerf.
Le vrai cerf. Mmh. Le vrai cerf qui est le guide qui est celui de la pour lequel on va se nourrir pour la première fois, parce que l'homme, pour la première fois, s'est nourri de la chair animale. Et donc, on va se nourrir de ce cerf avant de rentrer, de revenir dans la communauté.
C'est-à-dire, tout comme on a trouvé le peyote pour se nourrir, je dirais, mentalement, puisqu'en fait, même le fait de l'incurgiter au retour ou de commencer très tôt à le reprendre, hein, puisque c'est une sorte de circuit, c'est pour s'éclairer l'âme et colorer sa qualité de vision. Et là, vous venez d'évoquer le cerf, c'est la même chose. Donc, en le chassant, on va se nourrir au sens physique, voilà, du terme.
On va recommencer le cycle de la vie, mm-hmm, tout simplement. Et on revient après sur le village. On rencontre, on revoit le peuple qu'on a laissé là, souvent sous la responsabilité des anciens de la communauté. Et on va distribuer cette source de vie. Cette source de vie qui est le peyote, qui est le maïs que l'on a, et qui est le cerf, la chair du cerf. Et alors ça, étrangement, on va le distribuer, on va le faire rentrer dans chaque membre de la communauté qui est resté là. Et on va le faire rentrer d'une manière très simple, qui est simplement qu'on a pris les trois éléments, les trois nourritures, on les a mastiquées pendant longtemps dans la bouche, et puis l'on va se diriger vers chacun des hommes qui restaient à la communauté, et l'on va le souffler par le haut de la tête, par la porte qui est en relation directe avec les cieux, avec les dieux, et on va souffler donc cette nourriture pour que chacun puisse profiter de cette nourriture.
Thank you.
Du cœur du ricori monte la brume, le cerf bleu monte, la pluie tombe, cerf bleu descend, le maïs germe, la fleur s'épanouit. Et chante la fleur, je suis le cerf, et chante le cerf, je suis la fleur. À Viricota, on entend le chant, chantent nos pères, nos mères, les montagnes, les collines chantent et chantent les fleurs. Là seulement, à Viricota, on entend le chant de la vie, la voix de la vie. Seulement là, à Viricota, seulement là, on entend. Marché longtemps, vous avez vu enfin ce caillou marie, ce cerf bleu. Vous l'avez compris avec le premier cactus que vous avez mangé. Vous avez saisi finalement cette signification profonde de l'identité du peyote qu'on évoque depuis tout à l'heure avec Mathieu Tournaire. Vous avez compris cette identité avec le cerf, avec le maïs. Et puis, il y a cette espèce de miracle où toutes les natures se retrouvent. Et finalement, on comprend maintenant pourquoi la brume que j'évoquais en poésie tout à l'heure peut surgir de ce même peyote en plein désert et retomber là-bas, dans leur pays, en pluie féconde ou n'importe où. C'est vraiment un circuit où les choses naissent de ce cactus, s'imaginent déjà en cerf qui court et terminent en maïs qui pousse. Et nous sommes arrivés maintenant à ce moment de la grande fête de l'Ikouri ou du Ricouri. Et c'est quand même une fête assez curieuse parce qu'on a chassé le cerf tout à l'heure, on a mastiqué tout cela, on l'a répandu en fait mentalement sur tout le monde. Et c'est quand même le moment peut-être de ce que j'appellerais une libération complète, une sorte d'ivresse totale. Alors dans le sens positif, parce que maintenant vous y êtes, on comprend pourquoi on est fatigué, on comprend pourquoi on s'est mis dans cet état finalement. Et cette longue période de privation qu'on vient de subir, cette attente de ceux qui vous ont reçu de façon incroyable, comme si vous étiez des messagers, parce que bon, on a mis 3 jours pour remplir les hôtes, il faut être lent, il faut se répéter, parce que dans la tête de l'Indien, il y a aussi cela. J'ai fait peu de pèlerinages dans ma vie, mais la seule chose dont on se rappelle, c'est la marche en soi, c'est la répétition, c'est ce moulin à prière, le pourquoi on est parti, pourquoi on revient. Ce sont des choses qui trottent dans la tête de manière toujours plus minimale, comme si tout à coup on arrivait vraiment à l'essentiel. Et lorsque on entre dans le temple et qu'on est accueilli à la fin d'une mission comme celle-là, d'une mission divine, je pense qu'effectivement, on est accueilli comme des héros. Il y a beaucoup d'émotions, il y a de la chaleur, bien sûr. Et puis, ces grandes maisons communautaires, ces temples, c'est quand même des lieux qui sont très forts aussi. Quand on les a vus construire, quand on les voit utiliser avec le foyer central. Mathieu Tournaire, comment est-ce qu'on revit cet instant où tout à coup cette communion va exister, ou cet instant où va commencer la grande fête de l'ivresse qui a lieu un peu plus tard?
Eh bien, une fois arrivé donc au village, enfin au village, au lieu où le temple domine par sa hauteur, car il...
Décrivez-le.
C'est un temple circulaire avec un immense toit de chaume qui peut monter à 15 mètres, 20 mètres, 20 mètres de haut. Et avec une seule ouverture,
Il n'y a toujours qu'une porte, ça c'est vrai.
Une seule ouverture qui est orientée vers le lever du soleil, là où se lève le soleil. Et donc on arrive devant ce temple. Et avant de rentrer dans le temple, on va faire 5 fois le tour de ce temple.
Comme par hasard.
5 fois. Puis on va rentrer dans le temple. Et là, au moment où on rentre dans le temple, on se sent, même en tant qu'occidental, même en tant que qu'étranger à ça.
Ah oui, ça passe, oui.
Que simple observateur, se sent porteur de quelque chose, on se sent ramener quelque chose. On ne sait pas quoi encore, on ne sait pas ce qu'on vient ramener, mais on ramène quelque chose. Et on rentre dans le temple, et là, dans le temple, toute une assemblée est assise qui nous attend, et l'on va les saluer de manière traditionnelle, en leur distribuant un grain de maïs, un petit morceau de peyote et un petit morceau de viande de cerf. Et comme ça, l'on va saluer chaque personne une à une. Et ces personnes ne vont pas oser nous regarder, parce que l'on est justement puissant, l'on a quelque chose. Il ne faut surtout pas qu'ils nous regardent, sinon ils risqueraient d'être aveuglés. Et une fois tout le monde ayant été salué, l'on s'assoit, l'on attend, et là il va se passer des moments interminables, qui vont nous paraître interminables, de silence, de chuchotement. On ne sait pas ce qui se passe exactement, mais une résonance dans ce temple circulaire, dans cette immensité.
Il y a deux grands piliers de bois.
Il y a deux immenses piliers de bois qui sont...
Le cerf mâle.
Qui symbolisent justement la relation entre la terre, mère, et le ciel.
Et le ciel. Avec l'idée du cerf mâle, du cerf femelle, en fait. Le
voilà, c'est-à-dire...
Tout est symbolique. Hein.
Voilà, l'entité, le cerf mâle, le cerf femelle, ou l'aigle bicéphale,
aussi,
également, qui est en même temps le père et la mère du soleil. Et petit à petit, donc on est assis là, et là, le chef, le guide, Marakwari, le grand cerf bleu, celui qui a incarné Marakwari, se lève et commence à parler. À parler d'un ton monotone. Les Witchell ont un dialecte qui est très, très monotone, très sans grande variation. Et il va commencer à parler, et il va raconter en fait le pèlerinage, tout ce qui s'est passé. Et ça, on l'a répété pendant le pèlerinage. Tous les soirs, autour du feu, l'on a appris notre leçon.
On prenait note mentalement.
On prenait note de ce qui se passait. Chacun intervenait, chacun disait, là il s'est passé quelque chose, là il s'est passé quelque chose. Et le Marakwari a enregistré tout ça. Et maintenant, va le répéter au peuple et va donc relater tous les faits qu'ils se sont passés. Et tout le monde écoute à ce moment-là, et c'est super, parce qu'on se sent impliqué, on se sent messager, parce qu'on se sent écouté. Donc si on est écouté, c'est qu'on est porteur de quelque chose.
Est-ce qu'un Mathieu Tourneur peut avoir un petit saut sur le coin de la joue? Je veux dire, est-ce que l'idée du maquillage ou le fait d'avoir fait vous-même le pèlerinage vous a impliqué de la même manière?
Ah, tout à fait, j'étais un pilloteros, j'ai tous les soirs, au moment de l'ouverture du feu, j'ai offert à manger au feu.
Oui.
En lui donnant un bâton de bois et puis un peu de nourriture. Je suis arrivé, j'ai cueilli mon peyote. J'ai demandé pardon au cerf de l'avoir tué pour me nourrir. Et bien sûr, je suis un pilletero, je me suis maquillé, bien sûr, je n'ai aucun rôle, je ne représente personne, je représente...
Peut-être ce fameux petit aigle qui flotte de temps en temps sur le Mexique et les États-Unis, non?
Peut-être l'un de ces aigles, oui.
Parce qu'on est aussi une image, je veux dire, on représente aussi quelque chose dans la tête d'un Huichol. Un étranger reste un symbole d'étranger.
Tout à fait, et d'ailleurs au moment où je me suis peint le visage, la première fois que je me suis peint le visage, j'ai demandé au Huichol qu'est-ce que je devais faire sur mon visage, quel dessin devais-je représenter. Il m'a dit, mais représente un dessin qui t'appartient.
Absolument.
Et que tu comprends.
Mm-hmm. C'était vous-même votre propre symbolique, et obligatoirement,
exactement,
vous identifiez ce que vous pourriez symboliser.
Exactement.
Mm-hmm. Ça m'est arrivé d'avoir le même problème, mais c'est vrai que la première fois où on commence le dessin, on se demande bien ce qu'on va faire.
Il ne faut pas essayer de copier, il ne faut pas essayer de se mettre dans la peau d'un Huichol. Il faut rester soi, tout simplement. Et puis, mais rien qu'en restant soi, on apprend énormément. Thank you.
En pleine fête, nous avons trouvé un étranger qui s'est introduit dans la hutte et qui nous décrit la scène. Mathieu Tournaire est un peu notre cerbleu et il peut raconter après ce qu'il a vécu, peut-être pas tout à fait dans le ton monotone, et monotone n'est pas le terme pour la langue Huichol. Ce que je trouve fabuleux justement dans leur façon de parler, c'est que ça devient quelque chose de monocorde, c'est quelque chose d'étrangement répétitif, mais c'est justement un rythme. Il y a quelque chose d'extraordinairement rythmé, comme un mocassin sait marcher, comme quelqu'un sait faire un pas devant l'autre, comme un moulin à prière sait tourner de façon naturelle et constante. Ce sont des choses qu'on a même peine à donner des mots à ces sensations, parce que tout à coup on se dit ça y est, le truc a fonctionné. C'est comme le rythme musical ou comme le chant. On se dit mais c'est simpliste, et plus on rentre à l'intérieur, plus on le trouve complexe, plus on se dit qu'en fait il y a toute une vie à l'intérieur d'un rythme simple. Et ça, c'est de nouveau une chose indienne, c'est cette extraordinaire recherche de la simplicité, de l'énergie, qui finalement donne une vie véritable à leur cérémonie, qui peuvent durer à ce moment-là des jours, parce que la seule chose qui reste après 3 jours ou 5 jours de fête, c'est ce rythme à l'intérieur de la tête qui va durer des mois.
Ce rythme qui est répété d'ailleurs et qui est repris par l'ensemble de l'assistance qui est là. Car à chaque fois que le chaman dit quelque chose, tout le peuple répète ce qu'il vient de dire. Et donc c'est cet esprit communautaire que l'on retrouve à chaque fois.
Alors on a parlé d'hallucinations, on a parlé de rêves aussi. On a parlé de cette ingestion un peu étrange, de toutes ces manifestations, des forces naturelles qui sont en présence. On sent bien qu'on est entouré d'un tas de choses. Et on peut maintenant déterminer des choix dans cette communauté. C'est-à-dire, tout à coup, on comprend beaucoup mieux pourquoi les autorités religieuses, les autorités civiles vont se mettre en place toutes seules à cause de tout cela, à cause de cette intériorité. Et en définitive, on voit aussi comment on est capable de recréer les événements mythiques qu'on essaye nous-mêmes d'évoquer. On pourrait presque en inventer, là, sur le moment, juste maintenant, parce que on sera en pleine ingestion. Et on vient de s'approcher, sans le savoir, de ce noyau de la tradition qui évolue, qui bouge, qui a quelque chose de complètement vivant. Et on est en même temps devenus des gardiens, des sortes de gardiens de cette fidélité centrale, en apprenant comme ça, en répétant. Et maintenant, pendant cette fête, bon, il y aura bien sûr quelque chose de plus énergique, il y a la danse. Le chant et la danse, c'est très complémentaire pour les Huichol. Et puis cette danse autour du chaman, c'est quelque chose d'impressionnant, parce que le feu va brûler de manière constante, il y a ces deux piliers. Et ce qui m'a touché le plus à l'intérieur de ces temples, c'est la vision, je dirais les ombres. Cette impression étrange d'être pris dans une espèce de théâtre incroyable et de voir ces ombres qui se dessinent un peu comme des silhouettes. Les parois sont très basses, le chaume descend très bas aussi, enfin ce toit est tout à fait visible comme une carcasse de l'intérieur. Et puis il y avait quelque chose qui m'a beaucoup touché chez les Huichol, c'est pour être sûr que les dieux sont présents, on met toujours des feuilles de chêne, si ma mémoire est bonne, dans les poutraisons. Et quand le dieu est là, on dit que les feuilles vibrent à peine. C'est une impression tout à coup que l'air lui-même est occupé par la visite de ces divinités qu'on vient d'évoquer. Alors vous avez compris qu'on était un peu ivre, un peu fatigué. Il y a aussi ce côté étrange des choses, une inquiétude. Et puis ce qui touche beaucoup pour nos yeux d'occidentaux, ce sont leurs pupilles. Leurs pupilles complètement dilatées, bien sûr. Et ces regards qui sont... Ce ne sont pas des regards, ce sont des choses fixes comme ça. On a l'impression d'agates qui se sont arrêtées dans les orbites. Et il y a quelque chose de perdu, mais en même temps, ce sont vraiment des yeux de visionnaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que on vient de rentrer justement dans ce qui est totalement indien. Et nous l'avons déjà évoqué une fois, Mathieu Tourneur, c'est la mélancolie. Et cette mélancolie, elle a quelque chose d'extraordinairement positif. Même si pour nous, elle est à mille milles de tout ce qu'on imagine dans une cérémonie.
Oui, et puis des fois, justement dans ce temple, comme vous disiez, dans ce temple, parfois, il y a un Indien couché sur le sol, les yeux écarquillés, les pupilles dilatées, qui semble que nous, avec nos yeux d'occidentaux, nous trouverions vraiment malsain et tout à fait
déplacé.
Tout à fait déplacé. Et cet Indien, tout d'un coup, va se lever, va se redresser, et va parler. Il va parler fort, et va commencer à parler. Et là, tout le monde va se taire. Tout le monde va l'écouter. Parce que c'est le moment où il a la vision. C'est le moment où il faut l'écouter. Et on l'écoutera jusqu'au bout. On ne le coupera pas. On ne coupera pas son
magnétophone.
Son magnétophone et son dialogue. Et ça, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que dans le monde dans la perception des Indiens Huichol, il n'y a pas de frontière entre la réalité et le rêve et la pensée. C'est la même chose. Si vous avez pensé quelque chose, cette chose est réelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très difficile lorsqu'on dialogue avec les Huichol, c'est que ils vous parlent, mais ils mélangent le légendaire, l'hallucination et le réel.
Et la réalité.
Et ce qui nous déroute complètement et ce qui est très difficile à percevoir.
Oui, c'est vrai qu'il faut des années pour se dire qu'il n'y a pas de frontière entre les deux. Nous, on appelle ça des mondes parallèles. Or, pour eux, il n'y a qu'un monde.
Il n'y a qu'un monde.
Donc, ça donne une dimension extraordinaire à l'espace aussi.
Voilà. Il y a le monde de la réflexion, tout simplement. Et ce monde de la réflexion, c'est nous. C'est un monde personnel. Nous regardons avec nos yeux et nous analysons les choses comme nous les voyons. Et si jamais vous voyez un arbre et que vous le trouvez beau, c'est vous qui le trouvez beau. C'est pas lui qui est beau, c'est vous qui le trouvez beau.
Là, vous mettez un doigt dans un engrenage très particulier qui est au fond assez intéressant à redécouvrir. C'est cette faculté qu'a le Huichol de créer non seulement son instant, mais tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire que c'est une philosophie qui est totalement à l'inverse de la nôtre. Nous créons la matière et nous la regardons. Le Huichol fait les deux choses à la fois. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ce qui l'entoure, c'est lui qui vient de le créer simplement parce qu'il a ouvert ses yeux sur l'objet. C'est quand même une autre façon de voir la chose, non? Ça rend l'autre chose vivante.
Oui, ça rend l'autre chose vivante. Et puis c'est la perception qui est importante, c'est tout. Il n'y a que ça d'intéressant chez le Huichol. Enfin, pour le Huichol, c'est la manière dont il perçoit les choses. Et souvent, il perçoit les choses très belles, d'ailleurs, parce que le suicide n'existe pas chez le Huichol.
Ou s'il existe, c'est parce qu'il a été choisi.
Mais il n'existe pas.
Mm-hmm.
Enfin, c'est assez curieux à ma connaissance, il n'existe pas.
Les quelques cas que j'ai entendus dans des zones indigènes, comme les Huichol ou les Coras, qui sont les voisins que je connais bien aussi, en principe, quand on admet un suicide dans ces communautés-là, c'est que le choix a été fait par la personne elle-même et qu'elle l'a annoncé. Je veux dire, par là, quand c'est quelque chose de très précolombien, c'est la mort peut-être la plus précieuse qui soit, donc la plus impossible aussi. Le suicide, s'il est parfaitement vécu, c'est choisir le moment, le comment et le pourquoi. Donc, pour un précolombien ou un indien, ça a quelque chose de divin, de génial. C'est-à-dire, on devient complètement créateur de sa propre mort.
À ce moment-là, ce n'est plus un suicide, c'est un sacrifice.
Eh oui. C'est toute la nuance qu'il faut en faire. Et là, on comprend mieux pourquoi le sacrifice existe chez les Indiens. Alors, on a évoqué le maïs, les enfants, le peyote, le pèlerinage, on a chassé le cerf, on a eu cette fête du peyote qui se situe plutôt en avril-mai, donc ça situe aussi le moment de préparation long avant le pèlerinage. Vous êtes parti en octobre-novembre, et finalement, vous vous retrouvez au mois d'avril, à la fin de la saison sèche, et vous n'avez toujours rien fait, vous êtes toujours à moitié Dieu, et je dirais, si vous me passez l'expression, à moitié allumé. C'est quand même impressionnant pour nous d'imaginer que ces gens vont passer 40%, s'ils sont peyoteros, 40% de leur année dans un état, appelons-le second, mais pour eux, il est primaire.
Oui, ils ont un rôle à jouer. D'ailleurs, leur tâche n'est pas des moindres parce qu'on va venir les consulter. On va venir les consulter. Ils seront les intermédiaires entre, entre, entre le monde irréel des dieux et le monde réel des hommes, ils seront le moyen de communication, ils seront le téléphone, ils seront...
Vous parlez de téléphone, est-ce qu'on est capable pendant ces 4 mois d'être en même temps conscient de l'actualité, c'est-à-dire des vrais problèmes qui se posent au Witchall? Là, on a plané pendant une heure, mais en fait, il y a une réalité que vous pourriez évoquer en 3 minutes et nous dire de façon peut-être un peu plus choquante que le Witchall est en danger.
Oui, le Witchall est en danger, il en est conscient d'ailleurs, il en est totalement conscient. Je vous ai dit au début de la première émission, je vous ai dit que le Witchall connaissait parfaitement le monde occidental, connaissait parfaitement notre monde, bien qu'il ne veut pas y adhérer. Et c'est d'ailleurs, lorsqu'il revient chez lui, c'est sa fierté, c'est de pouvoir se détacher de tout ça. C'est de pouvoir... Il vit sobrement, pauvrement, et avec un minimum. Et l'argent existe malheureusement depuis peu de temps dans la Sierra Witchall et fait d'énormes dégâts car c'est un esprit communautaire et dans un esprit communautaire l'argent ne peut pas fonctionner. Et donc il y a ça, puis il y a d'autres problèmes. Il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, que le chemin des ancêtres est entravé par des barbelés. Il y a le problème du peyote. Le peyote est un cactus hallucinogène. Et donc est une drogue, et la drogue est interdite au Mexique, ce qui est normal. Mais pour eux, c'est pas une drogue, c'est une plante divine. Et puis il y a le cerf aussi. Le cerf, la chasse du cerf est difficile, et le cerf est de plus en plus rare. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'industrialisation du pays, en plein essor, et qui supprime un petit peu l'environnement. Et puis il y a le déboisement, et puis il y a aussi le fait que le Mexique est en train de former un marché commun avec nord-américain, et ce marché commun nord-américain, ça peut être la fin des Witchall, ça peut être une politique de réserve.
L'idée d'en faire une réserve, oui.
L'idée d'en faire une réserve, et à ce moment-là, la réserve, c'est quoi? C'est la fin du Witchall, c'est la fin de l'Indien, c'est la fin de l'identité, c'est être montré comme une bête curieuse et être enfermé, c'est horrible.
La fin d'une migration mentale, c'est bien ça. Ce serait le danger majeur du Witchall. C'est-à-dire, il a été nomade, il s'est déplacé sur des centaines de kilomètres, il a choisi cet endroit. Et aujourd'hui, si tout à coup on lui mettait une barrière autour, il n'aurait plus aucune possibilité de s'échapper. Est-ce qu'un Witchall en captivité est encore un Witchall? C'est une question grave. Mais est-ce que le Witchall lui-même est conscient qu'il pourrait rompre cette idée de réserve? Est-ce qu'un Witchall, et j'en connais, qui vivent déjà à proximité des villes, peuvent tout à coup, par leur faculté de se transformer eux-mêmes, peuvent trouver d'autres issues à travers notre civilisation?
C'est très difficile, et je pense que eux seuls peuvent y répondre. Mais je pense qu'il est... Non, le Witchall ne trouvera pas d'issue... à travers notre civilisation. La seule issue qu'il a, c'est son intégrité et la possibilité de son intégrité, c'est-à-dire de lui laisser justement les moyens de cette intégrité et donc de lui laisser sa trilogie, la base de sa religion, un territoire et
un choix.
Et un choix, exactement.